C'est le bonheur de votre émission, dialogue entre Congolais avec l'ARN.
Bonsoir. Dans un communiqué publié hier, l'ONG International Crisis Group affirme que la résolution du conflit au Kivu par l'option militaire est un échec. Sur quoi se base cette ONG pour soutenir cette affirmation et quelle solution propose-t-elle pour ramener la paix au Kivu? Trois invités participent à cette émission. Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Thierry Vircoulon, directeur d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale. Monsieur Vircoulon, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Professeur Bob Kabamba, analyste, professeur de prévention des conflits à l'Université de Liège en Belgique, qui va nous rejoindre dans un court moment. Vos réactions, par contre, nous les avons déjà. Zenon Sassomo au Kenya. Si aujourd'hui toutes les tentatives semblent échouer, c'est puisque tous les acteurs ne sont pas traités de la même manière et le camp qui se croit en position de force veut écraser l'adversaire qui aussi ne se laisse pas faire. Comme solution, je pense qu'il faut un minimum de dialogue sans tranchant, car si les Kivusiens souffrent aujourd'hui, la cause est plus exogène qu'endogène. Adolphe Kilumba Soumaïli du Costa Rica, suspendre les opérations pour que les miliciens continuent de violer les femmes, piller et brûler les villages. Je crois que ces opérations doivent au contraire être renforcées. Bienvenue à tous dans votre émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La résolution du conflit au Kivu par l'option militaire est un échec. C'est ce que dit International Crisis Group dans un rapport publié hier. Cette ONG spécialisée dans la prévention des conflits estime que les deux ans de rapprochement entre Joseph Kabila et Paul Kagame n'ont pas donné de résultats attendus. Les soldats gouvernementaux sont encore aux prises avec des miliciens pour le contrôle des terres et des zones minières. Dans le même temps, les civils subissent des violences extrêmes et la situation humanitaire se détériore, estime International Crisis Group. Kevin Couty, vous vous êtes penché sur ce rapport. Quelles en sont les grandes lignes?
Ce rapport affirme que malgré les trois opérations successives menées par l'armée congolaise, la situation humanitaire se détériore au Kivu et les actes d'extrême violence se multiplient. Les femmes ainsi que les jeunes filles subissent les conséquences de l'impunité générale et de l'environnement hautement militarisé dans lequel la pratique du viol est endémique. La population est à la fois victime des campagnes de représailles menées par les rebelles et des violations impunies des droits humains commises par les soldats congolais. Les tensions ethniques se sont aggravées à l'annonce des plans de rapatriement de dizaines de milliers de réfugiés congolais qui ont fui au Rwanda durant les années 90. Toujours selon ce rapport, le groupe rebelle Hutu-Rwandais FDLR résiste aux campagnes de désarmement forcé en concluant des alliances avec les milices congolaises qui refusent d'être intégrées dans l'armée nationale. Les FDLR ont été chassés de nombreux sites miniers dont ils avaient le contrôle. Cependant, ces derniers n'ont toujours pas été placés sous le contrôle d'une autorité légitime. Enfin, ce rapport soutient que l'intégration rapide d'anciens rebelles, dont certains prisonniers criminels de guerre au sein de l'armée nationale et leur participation à des opérations militaires mal planifiées, n'ont pas contribué à résoudre le conflit dans l'est du Congo.
Merci, Kéline Couté. Thierry Vercoulon, vous êtes directeur d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale. Sur quoi vous vous basez pour affirmer que la résolution du conflit au Kivu par l'option militaire est un échec?
Écoutez, actuellement, on peut dire qu'on est dans une situation classique dans l'isolement militaire, parce que après les opérations, les premières opérations qui ont eu lieu en 2009, qui se sont traduites par un recul des FDLR, on observe que les FDLR sont revenus sur un certain nombre de positions, et donc ce recul a été tout à fait temporaire. On est clairement dans une situation où on ne peut pas dire que l'armée congolaise a défait les FDLR, tout comme les FDLR ne peuvent pas non plus défaire l'armée congolaise. Donc on est dans cette situation d'enlisement.
Il y a cet auditeur Kairi Makembera de Kalemi en Nord Kivu, Thierry Vercoulon, qui dit « Je pense que les opérations militaires n'ont pas échoué car ce n'est pas un projet à court ou à moyen terme, mais à long terme. »
La question, dans ce cas, c'est de définir le long terme. Dans l'état actuel des choses, on a en effet le sentiment que ces opérations peuvent durer très très longtemps avant qu'elles ne produisent de résultats. Il faut quand même se rappeler que la première opération, ça a été au Mojaweitu, et qu'elle remonte au début de l'année 2009. On pourrait très bien dire que, certes, les opérations nécessitent du temps pour produire leurs résultats, mais d'une part, ces opérations ont des conséquences qui sont très dommageables pour la population. Ça se traduit par un certain nombre de souffrances pour la population du Kivu. Et deuxièmement, comme je le disais, il faut qu'on définisse ce qu'on appelle le long terme. Or, ce que je remarque, c'est que les autorités militaires n'ont pas défini un horizon temporel en disant « bon ben, on en a pour 2, 3 ans, 5 ans d'opérations militaires avant de défaire les SDLR ».
Alors, quand vous dites que le rapprochement entre les présidents Joseph Kabila et Paul Kagame n'ont pas donné les résultats attendus, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ce que je veux dire, c'est que, précisément, la question du désarmement forcé des SDLR faisait partie de ces discussions entre Kigali et Kinshasa, et que ce qui est apparu comme une sorte de diplomatie secrète n'a pas permis de désamorcer les causes profondes du conflit dans le Kivu. Je crois qu'il est maintenant très important de sortir une sorte de diplomatie secrète pour afficher des objectifs clairs et sans ambiguïté.
Donc, ICG, Crisis Group, suicide ou n'est pas pour cette stratégie que vous appelez des engagements présidentiels tenus secrets.
Il est, à mon avis, extrêmement important de sortir d'une sorte de diplomatie secrète pour éviter de donner l'impression que les intérêts des communautés locales du Kivu vont être sacrifiés sur l'autel des intérêts des deux capitales. Vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu la crise de Goma à la fin de 2008, et après ces échanges entre les deux capitales, il n'y a pas eu d'explication claire donnée sur quel était le plan, au début de 2009, sur quel était le plan de règlement du problème du Kivu, et quel était le plan pour les SDLR. Par exemple, quel était le plan militaire clair pour défaire les SDLR, c'est-à-dire quels étaient les objectifs militaires et quel était le cadre temporel qu'on se donnait. Toutes ces choses, toutes ces obscurités ont donné l'impression qu'on était dans une diplomatie secrète et par conséquent, un certain nombre de communautés dans les Kivu se sont inquiétées et il y a ce malaise qui persiste et qui est lui-même un obstacle à la paix, qui peut être lui-même un obstacle à la paix.
Alors, en parlant de ce rapprochement entre les présidents Kabila et Kagame, il y a un passage du rapport que je vais citer. Deuxièmement, Joseph Kabila a accepté de lancer des opérations militaires qui servent davantage les intérêts de ceux qui les conduisent, qu'elles apportent des réelles protections à la population. Par la Crisis Group affirme que les opérations militaires n'ont servi que le Rwanda et non la RDC.
Ce qu'on expliquait dans ce passage, c'est que d'une part, ces opérations militaires se sont traduites d'une certaine façon par l'enrichissement d'un certain nombre de commandants qui sont basés dans le Kivu, et d'autre part, que, en effet, ces opérations ont été demandées par Kigali.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Comment vous avez accueilli ce nouveau rapport de Crisis Group?
Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier Monsieur Thierry pour ce énième rapport que j'ai lu déjà tôt ce mercredi à 5h du matin. Mais je tiens à faire la première précision que ce rapport, je l'ai considéré comme une photographie instantanée, c'est-à-dire il n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour comprendre ce qui s'est passé dans le temps. Parce que vous le savez, un processus de paix, quand on en parle, ce n'est pas comme un feu de brousse qu'on éteint à l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un processus de paix, c'est un processus qui nécessite effectivement qu'il y ait une conjugaison d'un certain nombre d'éléments. Vous le savez, la situation de l'Est a une dimension aussi bien internationale, régionale, nationale, provinciale et locale. Je sais qu'il d'ailleurs a expliqué que depuis 2006, il y avait déjà la signature du pacte sur la stabilité et la sécurité dans la région des Grands Lacs. En 2007, il y avait le communiqué de Nairobi et les accords de Ngurdoto. En 2008, il y a eu la conférence de Goma qui a débouché sur la signature des actes d'engagement. En 2009, il y a l'engagement des deux armées comme le rapport le dit, c'est-à-dire l'armée rwandaise et l'armée congolaise qui ont désamorcé une crise. Et je pense que c'est quand lui, il a fait seulement cette photographie instantanée qu'il n'a pas compris ce que sont devenues les populations qui hier étaient dans les camps. Vous vous rappelez qu'en 2008, toute la ville de Goma était entourée des camps de déplacés. Aujourd'hui, je pense que tout le monde se rend compte que les 2 millions de déplacés qu'il y avait au nord et au sud Kivu sont déjà rentrés chez elles. Je crois que pour analyser cette question, il fallait beaucoup plus se baser sur les résultats auxquels on est arrivé. Quels sont les résultats auxquels on est arrivé aujourd'hui? Et là, je sais que lui le sait très bien, il y a trois types de résultats. Il y a des produits qui sont la résultante immédiate d'un processus, et c'est ce que nous avons connu par exemple, le retour de tous les déplacés dans leur milieu d'origine, l'intégration accélérée, la signature des accords tripartites qui n'avaient jamais existé entre la RDC, le Rwanda et le Burundi d'une part, de l'autre part entre la RDC, le HCR et le Rwanda. Et puis, dernièrement, le 29 octobre, nous venons de signer l'accord tripartite avec l'Ouganda pour que les réfugiés qui sont dans ces trois pays puissent rentrer chez eux. Donc tout ça, moi je considère que quand on ne les évoque pas, on risque d'être noyé dans des rapports qui naturellement ne font pas allusion aux avancées significatives auxquelles on est arrivé. Il y a quelques temps, il y a un rapport qui est sorti qui a dit quand même qu'on a atteint un certain nombre d'éléments, notamment 80% de ce que nous devions atteindre a déjà été atteint. Je crois que M. Thierry ferait œuvre utile à analyser objectivement cette question en faisant un regard rétrospectif sur ce qu'a été le nord du sud Kivu il y a deux ans et ce qu'il est aujourd'hui. Les territoires de Rutshuru, les territoires de Masisi étaient des bastions des FDLR. On est arrivé à rapatrier 12 000 des FDLR au Rwanda, ce qui n'avait jamais été atteint auparavant. Aujourd'hui, ils ne se concentrent que dans les territoires de Walikale où des opérations sont en train d'être menées contre eux. Comment on peut justifier aujourd'hui, avec toutes ces avancées, que l'on dise que la solution militaire s'avère être un échec, alors que toutes les ONG, on les a vues déployer sur le terrain avec des millions de dollars qu'ils ont dépensés. Hier, ces mêmes ONG écrivaient en disant que non, il faudrait qu'il y ait une diplomatie agissante entre la RDC et le Rwanda pour qu'on en arrive à la solution. Maintenant qu'on est en train de trouver des solutions à la crise, ils reviennent encore à la charge pour dire que le rapprochement entre Kagame et Kabila n'a rien produit. Finalement, c'est qui? À quel niveau ces ONG?
Monsieur le gouverneur, je vais vous citer un autre passage de ce rapport et demander évidemment votre réaction. Je cite: l'intégration rapide d'anciens rebelles, dont certains présumés criminels de guerre au sein de l'armée nationale, et leur participation à des opérations militaires mal planifiées n'ont pas contribué à résoudre les conflits dans l'est du Congo. Vous avez fait tout à l'heure allusion à l'intégration accélérée. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce passage?
D'abord, je note une contradiction à ce rapport que j'ai lu. Lorsque vous lisez la première phrase de ce rapport, il dit clairement que la solution militaire s'avère être un échec. Mais lorsque vous parcourez ce rapport et que vous allez au chapitre des recommandations, il revient encore en disant il faut déployer des bataillons congolais dans un premier temps dans les territoires de Masisi et Rutshuru au nord Kivu. Comment lui qui dit que les actions militaires ont été un échec, dans ses recommandations, il revient encore sur la même chose? Ça m'a affirmé une chose à son contraire. Alors moi, je me suis dit, est-ce qu'on a même analysé le contenu de son rapport lorsqu'il l'a élaboré? J'estime qu'aujourd'hui, on peut nous donner des leçons sur certaines failles que nous connaissons, mais je crois que les avancées auxquelles on est arrivé démontrent à suffisance que le président de la République, avec tous les partenaires qui se sont engagés dans la démarche, nous ont amené quand même à un stade où nous pouvons mesurer des indicateurs qui sont objectivement vérifiables. Mais on ne doit pas s'expliquer sur des résultats intermédiaires. Comme je le dis souvent, il y a trois types de résultats. Il y a le premier résultat auquel on est arrivé, mais qui nécessite maintenant qu'on produise des effets qui auront un impact, et c'est à ce moment-là que nous atteindrons les résultats
ultime que nous recherchons,
merci,
c'est nos objectifs, c'est-à-dire la paix dans l'est de la RDC.
Merci, monsieur le gouverneur. La réalisation me signale que le professeur Bob Kabamba est en ligne. Professeur, bonsoir, vous nous suivez?
Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir.
Alors,
bonsoir aux auditeurs aussi.
Comment vous analysez, professeur, ce rapport de Crisis Group qui affirme que la résolution du conflit au Kivu par l'option militaire est un échec?
Oui. D'abord, dans un premier temps, je voudrais donc remercier en tout cas l'intervention de Crisis Group pour ce nouveau rapport sur les deux Kivu et qui met la lumière sur toutes les opérations militaires qui se sont passées dans cette région. Alors, à la lecture donc du rapport, il y a quand même plusieurs choses qui méritent vraiment d'être soulignées et j'aimerais beaucoup vraiment que les auteurs de ce rapport tiennent compte de une série de remarques dont une partie des remarques ont été déjà formulées par le gouverneur. C'est-à-dire, lorsque l'on essaye d'évaluer l'approche militaire, on ne doit pas l'évaluer sur un temps X. Il faut l'évaluer dans le temps, comme l'a dit le gouverneur tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsqu'on se remet dans une phase prospective, donc dans un espace-temps, on se rend bien compte quand même qu'en 2008 et 2009, la situation quand même en 2008, elle était quand même explosive. Et il m'a fallu l'intervention quand même multiple et multilatérale pour essayer de mettre fin à la dégradation générale de la situation sécuritaire au nord et au sud Kivu. Alors les résultats que l'on peut essayer de voir dans le cadre de cette opération militaire, c'est que dans un premier temps, lorsqu'on parle justement des objectifs de l'opération militaire, je pense que de deux côtés du pays, donc aussi bien du côté rwandais que du côté congolais, l'opération militaire visait dans un premier temps non pas à éliminer les FDLR comme il est souligné dans le présent rapport de ICG, mais plutôt d'empêcher que les FDLR continuent à avoir accès aux minerais, puisque l'on sait très bien que c'est par les minerais qu'ils arrivaient à pouvoir se constituer un trésor de guerre important en vue de pouvoir lancer des opérations militaires vers le Rwanda. Et donc l'opération qui a été conjointe donc, au Moja-Wetu, entre le Rwanda et le Congo, visait à déstabiliser au fait l'approvisionnement en ressources financières des FDLR. Et de ce côté-là, lorsqu'on regarde sur cet objectif-là, il apparaît de manière très claire que l'organisation de recherche des ressources des FDLR a été quelque peu désorganisée. Et de plus, il faut souligner que du côté des FDLR, affilés quand même partout une série d'opérations militaires, n'ont pas arrêté de pouvoir commettre des exactions graves pour à chaque fois attirer l'attention sur eux et pour mettre en exergue justement que l'opération militaire n'aura pas réussi. Je note aussi par exemple aujourd'hui Radio Kapi a à nouveau annoncé que les FDLR ont attaqué et donc encore des populations civiles et ont commis des exactions graves à nouveau pour faire parler d'eux, montrer à l'opinion publique aussi bien congolaise qu'internationale que l'opération militaire n'est pas une réussite. Néanmoins, il y a quand même des choses importantes que le rapport nous permet de mettre en exergue aussi, c'est le fait qu'il y a toujours dans cette région cette mouvance des différentes milices et avec des rapprochements et des alliances qui sont en train de se faire. Par exemple, qui aurait imaginé que le PARICO, par exemple, pourrait signer des accords et avoir des liens avec le CNDP, en sachant très bien que le PARECO a été un des groupes qui a été le plus virulent contre le CNDP, et aujourd'hui le rapport l'indique qu'il y a une espèce de coalition qui est en train de se faire entre les différents groupes miliciens, groupes armés dans l'est du Congo. Et par ailleurs aussi le rapport met aussi en exergue le fait que cette coalition, ces nouvelles coalitions qui sont en train de se mettre en place dans l'est, avec les implications des dissidents rwandais, c'est en train de remettre à l'ordre du jour une dynamique qui va être non pas de lancer une opération contre le Congo, mais plutôt avec un objectif qui sera de manière très claire de Rwanda. Donc on est en train d'assister à la mise en place d'une espèce de structure qui pourrait rassembler à l'AFDL dans les années 90 et qui aurait comme objectif de pouvoir réattaquer le Rwanda avec les dissidents du régime de Kagame.
Merci professeur Thierry Virkoulon. Vous avez suivi le professeur Bob Kabamba et le gouverneur Julien Paluku pour qui ce rapport contient certaines contradictions et ne tient pas compte des avancées.
Alors, ça reste pour vous dire, parce que le gouverneur a tout à fait raison. Il faut reprendre un processus de paix dans l'entièreté de son historicité. Depuis 2006, même depuis le communiqué de Nairobi en 2007, jusqu'aux accords signés en 2009 avec le CNDP, vous avez eu une succession d'accords de paix concernant les Kivus, les actes d'engagement de Goma en grand partie, je les connais bien parce que j'étais là à Goma à ce moment-là, cette succession d'accords de paix a mis en place les éléments de base du règlement du problème du Kivu, qui sont l'intégration politique et militaire des groupes armés, le rapatriement des réfugiés, la pression militaire contre ceux qui résistent au DDR et à l'intégration, et la relocalisation des FDLR également. Tous ces éléments sont les éléments de la solution pour le Kivu. Ce que dit ce rapport, c'est que ces éléments sont mis en œuvre d'une manière qui n'est pas satisfaisante et qui n'est pas efficace. Si vous prenez par exemple le plan du rapatriement des réfugiés, et le gouverneur du Nord Kivu le sait très bien, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire en 2009, il y a un flot de réfugiés revenant congolais, revenant du Rwanda, de manière non contrôlée par le HCR et non contrôlée par les autorités du Nord Kivu non plus, donc une sorte de retour sauvage comme ça, était extrêmement préoccupant. Et a beaucoup préoccupé les communautés locales qui sont inquiètes pour leur terre. La question des opérations militaires, il n'y a pas de contradiction dans notre rapport sur ce point, parce que notre rapport dit qu'il faut arrêter les opérations militaires, mais ne dit pas qu'il faut arrêter la pression militaire. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut remplacer un certain nombre d'unités qui sont actuellement dans les Kivus par des unités mieux entraînées, c'est-à-dire celles qui ont été formées par les Belges, les Américains et les autres partenaires militaires de la RDC qui ont fait des formations pour un certain nombre de brigades. La question des FDLR et de la pression militaire sur les FDLR n'est pas remise en cause par notre rapport. Il y a clairement un jeu, et nous sommes tout à fait d'accord avec la logique qui a été mise en place, et qui est un jeu de carottes et de bâtons à l'égard des FDLR, puisqu'il y a des éléments de règlement qui prévoient leur retour au Rwanda ou leur relocalisation dans d'autres parties de la RDC, il ne faut pas l'oublier non plus, et s'ils le refusent, et bien dans ce cas, il y a une pression militaire pour un désarmement forcé. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette logique. Mais ce que nous observons, c'est que cette pression militaire depuis le début de 2009, n'a pas été très efficace sur les FDLR. En effet, ils ont perdu un certain nombre de positions lumières. Enfin, je ne suis pas complètement persuadé qu'ils aient été beaucoup affectés par ça. Et d'autre part, non seulement il y a, comme le disait le professeur Kabamba, des représailles commises par les FDLR, mais il y a quand même un sérieux problème de criminalité lié à la présence des hommes armés et d'une forte présence militaire dans les Kivus. En ce moment, et le gouverneur du Nord Kivu le sait très bien, il y a une opération de démilitarisation de la ville de Beni. Pourquoi est-ce qu'il y a une opération de démilitarisation de la ville de Beni? C'est-à-dire qu'on sort les militaires de Beni pour les localiser ailleurs. Tout simplement parce que les sociétés civiles de Beni et de Butembo se sont plaints considérablement de l'augmentation de la criminalité et ont fait un lobbying auprès des autorités qui viennent payer et qui ont démilitarisé Beni.
Merci Thierry Vercolombe. C'est le gouverneur Julien Paloukou, un autre passage de ce rapport d'International Crisis Group. Les institutions politiques provinciales se déchirent sur fond d'accusations de corruption, entraînant une crise de la gouvernance locale. En dépit de l'intensification des échanges commerciaux dans les grandes villes frontalières et de la relance des institutions économiques régionales, un développement économique de long terme reste incertain. Votre réaction?
Oui, c'est pourquoi au début j'ai dit que ce rapport c'est comme un cliché. Il a fait une photographie instantanée de ce qui existait avant. C'est une histoire de confiance d'institution. Ça appartient au passé, c'est une histoire de 2009. Ça n'a rien à voir avec 2010. Donc je voudrais dire que par rapport à ce que le professeur Bamba a dit, on doit rectifier dans l'opinion que le PARECO ait signé un accord avec le CNDP. On doit rectifier tout de suite. Parce que lorsque ce communiqué est sorti, nous avions rapidement Et la réaction du PARECO qui a dit que la personne qui avait signé aux côtés d'un colonel du CNDP n'était pas reconnue dans le PARECO. Donc il n'y a jamais eu d'alliance entre PARECO et CNDP. Ça c'est quelque chose qu'on doit retenir une fois pour toutes. Deuxième chose, lorsqu'hier, on n'avait pas encore commencé les opérations contre les FDLR, ces ONG écrivaient tous les jours que le gouvernement congolais est en complicité avec les FDLR, que le gouvernement congolais travaille, qu'on donne des armes, qu'on fait ceci. Maintenant que nous avons refusé de croire à ce qu'ils écrivaient et que le chef de l'État a décidé qu'on aille vers la vitesse supérieure et qu'on arrive à ces résultats, maintenant on nous demande encore de suspendre. Si aujourd'hui on suspendait les opérations, qui dit que les FDLR vont, eux, à leur tour, suspendre leurs opérations contre les populations civiles? Donc, si on suspendait aujourd'hui les opérations, on va leur permettre d'accroître la capacité d'organisation sur le terrain et demain de dérouter nos forces qu'on voudrait être formées par les Chinois ou les Américains ou les Belges. Tout ça, ça relève de l'utopie. Croire que nous n'allons agir que lorsque nous serons formés par les Américains, les Chinois, les Belges, les Sud-Africains, les Angolais, je crois que c'est ramener la solution de notre problème ailleurs. Nous devons commencer à nous assumer et recevoir de la part de la communauté internationale un appui. C'est eux-mêmes qui disent qu'ils ne peuvent pas se transformer au gouvernement congolais, que nous devons nous assumer en tant qu'État. Et lorsque nous le faisons, on nous demande de ne pas nous assumer qu'en tant qu'État, que nous attendions que les États d'ailleurs viennent d'abord commencer par nous renforcer en capacité. Donc je crois que c'est cela que j'ai relevé en disant que la prémisse du rapport n'a pas concordé avec la conclusion. Alors moi je voudrais poser la question à Thierry, entre la prémisse qui disait que la solution militaire s'avère être un échec et sa conclusion qui nous demande de déployer encore des bataillons militaires, qu'est-ce qu'il faut entre sa prémisse et sa conclusion?
Merci Monsieur le Gouverneur. Professeur Bob Kabamba, le gouverneur Julien Falouku a déjà commencé à analyser pratiquement les recommandations de Crisis Group. Nous allons y aller directement. Cette recommandation dit, je cite, est suspendre les opérations militaires offensives au Kivu en attendant le déploiement des bataillons formés par les États-Unis, la Chine, la Belgique, l'Afrique du Sud et l'Angola. Et le gouverneur Julien Falouku pense que ces suspendre ainsi, c'est une utopie, professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup pour la question, mais avant de tout, je voudrais rassurer le gouverneur par rapport à la remarque. Moi, je n'ai fait que citer effectivement le rapport à la page 16 qui indique clairement que la branche autour de l'Afrique de Parico a été bien à l'FNDC, on fait front commun avec un SNDP en s'associant publiquement à la position à l'issue d'une réunion bilatérale. Je n'ai fait que citer en fait le rapport des relations avec les groupes lorsque j'ai parlé de l'alliance contre nature entre le Parico et l'FNDP. Et donc ça, c'est par rapport à ça. Alors, sur l'option, justement, par rapport à militaire, je crois me rappeler que Radio Capi avait déjà organisé plusieurs débats sur cette question-là, et je ne pense pas que la situation actuelle puisse faire changer les choses dans le sens où l'option militaire, pour notre part, c'est l'option qui est l'option la plus crédible, du fait que on a déjà essayé plusieurs campagnes de sensibilisation entre pour le rapatriement de VFDLR sans beaucoup de résultats, et donc c'est pour ça qu'il l'offensive militaire a été décidé, non seulement avec les différentes opérations, telles que c'est précisé encore une fois dans le rapport. Mais seulement quand on parle d'une opération militaire, il faut à nouveau se rendre bien à l'évidence qu'il y a à côté donc des FARC qui sont dans la région, il y a toujours quand même les troupes de la MONUSCO qui sont toujours présentes, donc il y a 5000 militaires au nord Kivu et 4000 au sud Kivu qui sont armés, aguerris avec des forces spéciales qui peuvent aussi participer de manière directe puisque toutes les résolutions du Conseil de sécurité et même dans la liste juridique des différents textes de l'ONU prouvent que l'ONU, la MONUSCO, peut intervenir et continuer à mettre fin à la présence et éradiquer les différentes postes de résistance qu'il y a encore au niveau des VFDLR. Parce que la crainte qu'il y a en disant que si l'on suspend les opérations militaires, ce qui va arriver, c'est qu'une fois, encore une fois, les VFDLR vont pouvoir se réarmer, se réorganiser en fonction d'une nouvelle stratégie. Et lorsque l'on parle effectivement, encore une fois, de la formation de l'armée, on ne forme pas une armée en 3 mois ou en 4 mois ou en 5 mois. Il faut former des bataillons qui soient bien formés et ça prend beaucoup de temps pour avoir un militaire a guéri, etc., etc. Donc pendant toute cette tension, cette fois les opérations militaires, pendant tout ce temps, ben, les MDLR continueront à sévir et les populations civiles continueront à être victimes de ces exactions. Je pense en tout cas, pour ma part, que la solution réside dans l'option militaire avec les troupes de MONUSCO, donc il y a 9000 hommes armés qui sont adhérents et qui peuvent, je pense, même si ce n'est pas militaire, qui pensent mettre fin quand même à la présence et aux exactions qui sont commises contre la population civile dans cette partie de la RDC.
Professeur Mokabamba, nous allons prendre cette question qui nous vient de Bukavu pour vous et je vais vous demander une brève réaction.
Je suis Madame Félicia de Bukavu. La solution militaire ne réussira pas aussi longtemps que la population ne se désolidarisera pas des groupes armés. Et aussi longtemps que les commerçants n'abandonnent pas leurs intérêts au égoïsme, ça n'ira toujours pas.
Professeur Mokabamba, brève réaction.
Merci beaucoup pour cette question de la part de l'auditrice. Donc, quand on parle effectivement de l'option militaire, ça veut dire, grosso modo, il faut s'attaquer à ceux qui sont en train de commettre des exactions sur le terrain. Et les troupes de l'ONU sont là pour ça, pour protéger les populations civiles. De mon point de vue, les exactions qui sont commises, et que si on ne met pas fin à l'option, mais fin à l'opération militaire, je pense que les exactions vont continuer et vont être de plus en plus graves et nous allons arriver à avoir une région qui va être fortement déstabilisée et qui ne va connaître la désolation.
Thierry Vercoulon, je rappelle que vous êtes le directeur d'International Crisis Group pour l'Afrique centrale. Vous avez suivi le gouverneur Julien Paluku et le professeur Bob Kabamba. Suspendre les opérations militaires n'est pas réaliste.
Oui, je voudrais être particulièrement clair sur ce point pour éviter tout malentendu. Comme je le disais, l'option du désarmement forcé de FDLR doit demeurer. Ce que nous disons dans notre rapport, c'est qu'il y a opération militaire et opération militaire. Les opérations militaires bien planifiées, faites avec des troupes formées, et je le redis, l'armée congolaise a déjà eu des brigades formées depuis plusieurs années par différentes coopérations militaires, que ce soit la Belgique, les États-Unis ou la Chine. Ces troupes sont disponibles et devraient être déployées pour faire des opérations militaires bien planifiées en coordination avec la MONUSCO. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait le professeur Bamba. La MONUSCO est là et peut fournir un soutien à l'armée, à ses brigades de l'armée congolaise, et que ces opérations soient bien planifiées afin qu'elles évitent ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire des dommages collatéraux considérables. Toutes les plaintes des sociétés civiles de Masisi, de Butembo et de Beni, depuis que les opérations militaires ont commencé, sont tout le monde à prendre en compte. Comme vous le disiez, il faut quand même s'interroger sur pourquoi il y a actuellement une opération de démilitarisation de la ville de Beni. Ça, je pense que c'est quand même important de comprendre. C'est précisément parce que un certain nombre de crimes et des actions ont été commises à Beni et pas par les FDLR.
Thierry Vercoulon, il y a des internautes qui nous écrivent, notamment Kanima, qui dit la RDC et la communauté internationale ont investi beaucoup de moyens pour la pacification de cette partie du pays. On se demande quelle autre stratégie appliquer pour enfin imposer la paix et la maintenir le plus longtemps possible. Toutes les voies n'ont pas été épuisées. Il y a encore une autre marge de manœuvre à portée de main, à savoir le dialogue et la diplomatie. Il appartient à chaque acteur de jouer correctement et sincèrement son rôle. Vous insistez également sur le dialogue dans ce rapport. Avec qui devrait se faire ce rapport? Ce dialogue, pardon.
Oui, tout à fait. Il y a eu depuis 2 ans maintenant un certain nombre de contacts entre les gouvernements des pays de la région, que ce soit des rencontres bilatérales entre les présidents ou des échanges entre les ministres des Affaires étrangères, etc. Il y a eu des sommets, des rencontres de la CEPGL et de la CIRGL, qui sont deux institutions régionales qui ont pour objectif de maintenir le dialogue. Tout ceci va effectivement dans le bon sens et on ne peut qu'appuyer le développement de ce dialogue institutionnel dans le cadre de ces deux instances régionales. Mais ce qui serait extrêmement intéressant de voir, c'est que au-delà des sommets de chefs d'État et de membres du gouvernement, il soit organisé organiser par exemple un sommet des sociétés civiles de la région dans le cadre de la CEPGL. Parce que les dialogues entre les populations burundaises, congolaises et rwandaises est extrêmement important pour désarmer un certain nombre de problèmes. Je pense que la CEPGL qui a fonctionnement au niveau des rencontres de ministres ou de chefs d'État aurait intérêt à organiser une rencontre de leaders des sociétés civiles de la région de manière à pouvoir aussi discuter des problèmes et désamorcer un certain nombre de suspicions qui persistent.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Nous sommes en train d'examiner les recommandations de l'International Crisis Group, mais avant, prenons cette question qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur.
Il n'a pas semblé à Mbandaka. Le communiqué publié par cette organisation montre clairement que l'opération Amaniléo a failli de leur mission. Le gouvernement, avec l'appui de la MONUSCO, doit créer des conditions favorables pour la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays.
Réaction, monsieur le gouverneur.
Oui, je pense qu'il se trouve en Mbandaka, c'est à des dizaines de kilomètres de Goma, de Masisi, de Rutshuru. S'il se trouvait à Rutshuru et à Goma, il aurait certainement vu que Goma n'est plus entouré par ces camps de déplacés. S'il était à Goma, à Rutshuru, il aurait trouvé qu'on a démantelé toutes les bases de Nyamilima, de Katsuguru, de partout des localités que je cite. On comprend que de loin, il ne puisse avoir que cette lecture. Donc moi, je pense que c'est quand on n'est pas au nord qui vous, qu'on se complaît à écrire n'importe quoi et à parler au nom des vies humaines. Alors que des gens qui sont morts il y a 2 ans, il y a 3 ans, s'ils pouvaient ressusciter, aujourd'hui, ils témoigneraient que aujourd'hui la société est en train de changer. Donc, j'estime que, comme je l'ai dit souvent, on ne doit pas confondre en fait une pluie torrentielle avec une gouttelette qui tombe après la pluie. C'est une gouttelette qui montre effectivement qu'il y avait une pluie torrentielle, mais qui ne sont pas à confondre avec la pluie elle-même. Aujourd'hui, on peut apprendre qu'il y a eu des vies humaines, il y a eu des opérations contre tel véhicule à Walikale. Nous plairons toutes ces vies humaines, mais nous ne pouvons pas comparer la situation telle que nous l'avons gérée en 2007, telle que le chef de l'État a organisé la conférence de Goma en 2008, telle que nous avons accompagné le programme Amani en 2009, et aujourd'hui avec les opérations Amani-Léo qui requièrent la participation de la MONUSCO. Moi je crois que le problème, comme j'ai allé dire dans une conférence à Goma, se situe à 5 niveaux. C'est comme un levier à 5 vitesses. Il y a un niveau international, il y a un niveau régional, il y a un niveau national, il y a un 4e niveau provincial et local. Et que donc chacun a un rôle à jouer. La MONUSCO est ici depuis 1999. Ça fait 11 ans que la MONUSCO est ici et elle vient de se transformer en MONUSCO aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons évaluer du travail qu'elle a déjà fait sur le terrain? Eh bien, le travail est très positif, mais est-ce que c'est suffisant? Donc, on ne doit pas jeter l'anathème sur le gouvernement congolais, alors que les efforts que nous menons sont des efforts énormes. Aujourd'hui, l'armée congolaise, c'est notre armée, c'est comme ça qu'elle a été composée. Au nom de la paix, le chef de l'État a dit, on prend tous ces groupes, on fait la formation des groupes armés, on en fait une armée. Qu'est-ce que nous devons attendre de la communauté internationale? C'est la formation. Ce n'est pas crier à longueur de journée pour dire que nous n'avons pas une armée, mais c'est de nous accompagner dans ce processus qui est déjà engagé par le président de la République pour que demain nous ressemblions aussi aux armées américaines, angolaises, chinoises, comme cela est cité dans ce rapport des crisis groupes.
Monsieur le gouverneur, il y a cet auditeur Jacques Mousalia qui a béni en or qui dit « Les solutions apportées à cette crise ont échoué parce qu'elles ne répondent pas aux problèmes posés. Je dénonce l'affairisme de certains officiers FARDC, l'ambition démesurée de certains politiciens qui alimenterait certaines milices, ainsi que le laxisme de la communauté internationale qui a intérêt à faire perdurer le chaos. Brève réaction, je vous en prie.
Oui, ça c'est une analyse par rapport aux résultats intermédiaires. Les gens ne voient que les résultats intermédiaires, mais ils ne voient pas la finalité. Quand on se limite à ce genre d'analyse, effectivement on se trompe. En planification, c'est ce qu'on appelle une gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire, on voit la finalité qu'on recherche. Qu'est-ce que nous recherchons aujourd'hui? C'est que la paix s'installe au nord Kivu et au sud Kivu. Mais pour que cette paix arrive, nous devons passer par des produits immédiats à observer sur le terrain, lesquels doivent donner lieu à des effets
qui, plus tard, auront un impact sur le vécu quotidien de la population. Mais si on veut combiner les trois types de résultats en un temps record, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Et je crois qu'il faut être logique envers nous-mêmes pour que nous ne comprenions pas ou que nous comprenions que quelque chose a changé malgré ces gouttelettes qui continuent à tomber au nord, au sud, Kivu et ailleurs.
Thierry Descoulons, dans les recommandations, il y en a qui sont formulées à l'endroit du gouvernement congolais et du CNDP.
Oui, tout à fait, tout à fait. La principale recommandation qui est formulée, c'est de mettre en application l'accord de mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP relatif à l'intégration politique et militaire et également au rapatriement des réfugiés qui est en cours, comme le disait le gouverneur. Donc ces éléments existent déjà et doivent être mis en œuvre. On a bien vu que la question de l'intégration politique du CNDP posait problème. On comprend maintenant que son intégration militaire n'a pas été ce qu'elle devait être. C'est-à-dire que si vous lisez par exemple le mémorandum de la société civile du Massissi du mois de juillet, qui a été adressé à toutes les autorités, et qui se plaint du fait que le Massissi est encore sous contrôle du CNDP, et non pas du CNDP comme une armée nationale. Donc on se rend compte que tous ces éléments qui sont la solution du problème ne sont pas mis en œuvre comme ils devraient le faire. La question que je repose une nouvelle fois, c'est que bien sûr il faut qu'il y ait des opérations militaires, mais quel est l'horizon temporel? Je suis tout à fait d'accord avec M. le gouverneur comme quoi il faut qu'il y ait un objectif, et que l'objectif c'est en effet de démanteler les troupes armées, mais il faut prendre garde que le fait qu'on s'y parle et qui tombe sur la population ne se transforme pas en rivière et en fleuve.
Merci. Professeur Bob Kabamba, il y a Augustin Kaindo qui est à Liège en Belgique où vous êtes. Il dit, à mon avis, des dialogues sont à organiser dans tous les pays de la sous-région dont les groupes armés RSA et là se sont tenus. Ces dialogues consolideraient le fragile processus de paix en cours au Kivu. Il y a des dimensions sous-régionales de la conflictualité au Kivu, tout comme il y a des solutions sous-régionales. Ce sera aussi votre conclusion. Est-ce que vous persistez que la solution militaire pour vous est la meilleure option?
Ben, vous savez, monsieur le journaliste, donc je réponds en carte de demander quand même à tous mes amis de la société civile, aussi bien les organisations internationales, de pouvoir se mobiliser et de faire pression sur la MONUSCO pour que la MONUSCO s'occupe réellement de ce problème. Tout le monde a déjà fait des rapports en disant que l'armée congolaise a des difficultés pour arriver à résoudre cette question. Nous avons tous cette conclusion. Toutes les ONG internationales arrivent à cette conclusion. Il y a une alternative qui est la MONUSCO qui est là avec les outils et les moyens indispensables. Que la société civile congolaise et internationale ainsi que les ONG se mobilisent pour faire pression justement sur la MONUSCO pour que ce soit la MONUSCO qui est là. Elle est outillée en ressources militaires, en ressources en moyens, et elle est équipée pour pouvoir résoudre ce problème-là.
Merci, professeur. Monsieur le gouverneur, Julien Paloukou, un mot en guise de conclusion.
Ce qui nous est déjà arrivé, et que, comme je l'ai rappelé dans mon introduction, on ne peut parler d'un processus de paix comme on parle d'un fait de brousse. Parce que même pendant le fait de brousse, on voit en France et en Californie que ce n'est pas un jour qu'on l'éteint. Donc on est en train d'évoluer. Aujourd'hui, je peux affirmer que les grades sont déjà sortis jusqu'au niveau des adjudants-chefs. Demain, après-demain, ce sera les sous-officiers et je crois que ça sera fait par le chef de l'État.
Merci à Thierry Vercoulon d'Intervention en Creuse et Groupe, à Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu, et au professeur Bob Kabamba. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. La rediffusion est à 4h par heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur notre site internet radiocapi.net. Portez-vous bien, à demain. Thank you.